C'est simple, c'est fort simple, vous réfléchissez et puis vous nous donnerez vos réponses demain matin dans le cadre de la matinale entre 7h et 9h puisque la matinale referme ses portes maintenant. Il est tout pile 9h, nous faisons un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Solène Ledorz.
Vous écoutez IDFM, il est 9h.
Le flash valdoisien avec vous, Solène.
Nous commençons ce flash avec une information qui concerne la région Île-de-France. Les élus franciliens viennent de voter à l'unanimité le soutien financier pour les communes touchées par les inondations de ce début d'année. Ce fonds doté de 1 million d'euros pourra éventuellement être réabondé en fonction des demandes reçues avant le 15 avril prochain. Ce dispositif, souhaité par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, est également ouvert aux commerçants et aux agriculteurs franciliens. Nous revenons maintenant sur la démission de Nicolas Macchioni, l'ancien maire de Sarcelles. La ville se retrouve sans maire depuis l'annonce de la démission de Nicolas Macchioni mercredi dernier. Depuis, 3 élus apparaissent comme des candidats sérieux à sa succession. Une réunion se tiendra aujourd'hui pour prendre une décision. 3 noms ressortent donc. D'abord Annick L'Olivier-Langlade, OPS, qui est arrivée sur la liste municipale en 2014. Elle est devenue première adjointe au maire chargée de la culture. Il y a aussi Annie Perronnet du PCF, adjointe chargée notamment des copropriétés, et enfin Patrick Hada du Parti Socialiste, adjoint à l'éducation. À 45 ans et élu depuis 2004, il a une connaissance et un attachement à la ville de Sarcelles où il a grandi. Nous revenons sur le forum contributif de la ville d'Ermont de samedi dernier, où 2 jeunes de 25 ans ont présenté leur initiative, et elle est étonnante puisqu'ils ont fait un véritable tour de France des fermes. Antonin Dezet et Julien Pedro ont passé 8 mois en immersion dans plusieurs fermes de l'Hexagone. Bénévoles dans une association qui met en place des potagers sur des toits d'école, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure en janvier 2017 pour une boucle de 8400 km ponctuée par 12 étapes de 2 semaines à 1 mois en immersion dans des exploitations. Une fois leur brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en poche, les deux amis comptent reprendre en novembre prochain une exploitation de maraîchage biologique dans le Vexin. Leur idée est de rendre les consommateurs consommateurs et qu'ils s'investissent dans la ferme. La 6e édition du salon Effervescence aura lieu demain. Elle vous permet de rencontrer un certain nombre d'exposants PME, PMI du Val d'Oise, industriels ou services aux entreprises qui représenteront leur spécialité. Il a pour objectif de se rencontrer en toute convivialité et de favoriser les échanges commerciaux entre entreprises géographiquement proches. Plus de 150 entreprises du Val d'Oise, principalement des industriels et des entreprises de services aux industries, sont attendus pour cette édition. Alors si vous êtes intéressé, allez vite vous inscrire sur saloneffervescence.fr qui se tiendra demain à la salle Émile Épré à Cormeilles-en-Parisis de 11h30 à 18h. Nous terminons ce flash avec une collecte au profit d'Emmaüs France. Jusqu'au 31 mars, ramenez les vêtements que vous ne portez plus dans l'une des boutiques participantes à l'opération Dressing du cœur. Les vêtements collectés seront redistribués à Emmaüs France. Venez trouver la boutique la plus proche de chez vous sur le site fédération-habillement.fr.
Merci beaucoup Solène. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un autre point sur l'actualité en Île-de-France et puis aussi demain matin, bien évidemment, dans le cadre de la matinale. La fin de la matinale, merci d'avoir été avec nous. Le bar de l'économie, elle parle toujours. Hein. C'est pas possible, j'ai pas fini mon émission. Non, je plaisante. Et c'est normal, ces invités sont là, c'est l'euphorie en fait.
On est des grands bavards en économie, il y a tellement de choses qui
se
passent.
Le thème, juste le thème s'il vous plaît,
Florence. Développement économique avec le président de la communauté de communes.
C'est trop tard, au revoir.
Le 35e anniversaire d'IDFME 98, deuxième festival balade musicale. Une édition étincelante. Église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains, vendredi 6 avril à 20h, l'orchestre du Palais sous la direction de Nicolas Lederman interprétera Gluck, Mozart et Vivaldi avec le concours de Solène Tribidic soprano, Dimitri Maslenikov violoncelliste, et Tristan Faf, pianiste et directeur artistique. Réservation, Office de Tourisme d'Enghien-les-Bains, 01 34 12 41 15 ou francebillet.com 0892 683 622.
J'espère que vous allez bien. À demain Christophe. Et nous, nous sommes ravis de vous retrouver pour nous enrichir avec vous en économie pour une nouvelle semaine sur 98.0 en FM, en web radio sur idfm98.fr et bien sûr en vidéo live via Facebook, page IDFM. Alors aujourd'hui, nous parlons communauté de communes, développement économique et pour cela, je reçois avec grand plaisir Patrick Renaud. Bonjour.
Enchanté, bonjour.
Vous êtes président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France depuis 2016, une communauté dont vous êtes membre depuis 1994, ce qui vous amène à présider l'agence de développement économique Roissy Dev et à présider l'association des collectivités du Grand Roissy. Vous êtes également un élu de Roissy en France depuis 1983, où vous occupez actuellement la fonction de premier adjoint. À noter que nous recevrons Monsieur Toulouse, maire de Roissy en France, le 3 avril prochain. Jusqu'en 2005, vous étiez directeur général de Cerver, la filiale du groupe Air France KLM spécialisée dans la restauration aérienne depuis 1974. Cerver est tout de même le troisième acteur mondial de la restauration et des métiers de la logistique du transport aérien. Avec vous, Patrick Renaud, nous verrons les spécificités de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, son développement, et puis j'aimerais votre avis sur quelques projets concernant le Val d'Oise comme les limites du Grand Paris, la ligne 17, l'annulation par le tribunal administratif de la ZAC, de Gonesse et pas que. Ils estiment que les études d'impact sont non suffisantes. Et puis peut-être au niveau national, votre avis sur le MIPIM d'où vous revenez et d'autres projets gouvernementaux si on a le temps, car l'heure défile vite. À vos côtés, Christophe Dépé, bonjour.
Enchanté, bonjour.
Vous avez travaillé pendant 8 ans chez Colas, puis en 2005, vous sautez le pas et vous fondez DTP2I, qui fait de la maintenance routière à l'enrobé projeté. Donc vous allez nous expliquer qu'est-ce que ces techniques de maintenance routière innovante, parce qu'on ne connaît pas. Et puis vous nous expliquez comment, pourquoi vous avez décidé de fonder cette entreprise. En 2018, votre entreprise regroupe maintenant 31 salariés. Vous avez créé différentes marques et vous êtes lauréat du concours Éco-Trophée du PNR du Vexin français. Vous êtes aussi administrateur du syndicat valdoisien des travaux publics et vous serez présent au salon de l'AMIF, le salon des maires d'Île-de-France, qui a lieu les 10, 11 et 12 avril 2018, avenue de la Porte de la Villette à Paris, qui regroupe durant 3 jours l'ensemble des prestataires des collectivités territoriales et les élus, bien sûr. Un exemple de thème abordé à ce salon, eh bien, l'évolution du rôle et des compétences d'un maire, un statut à redéfinir, ou bien le programme d'innovation du Grand Paris Express, le lancement de nouvelles méthodes de composition d'espaces publics, enfin plein de belles choses pour notre futur. Vous aussi, Patrick Renaud, vous allez sans doute participer à un salon, la SITL, la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, du 20 au 23 mars à Villepinte. Alors là, rendez-vous incontournable du transport en France, de la chaîne logistique et qui réunit l'ensemble des acteurs et des produits, des services de la profession. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Mais tout d'abord, comme d'habitude, on commence avec une pépite. Et puis, il fait froid, il y a de la neige. Je vous propose un son bien, bien chaleureux, celui de Duke Ellington avec Anitra's Dance. Chauneau, votre communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, a une particularité, c'est d'être sur deux départements. Alors, combien de communes, combien d'habitants, gérez-vous, on peut dire ?
Alors, très simplement, ben effectivement, c'est une des premières en France, c'est assez rare, c'est sur deux départements, 25 communes du Val d'Oise, 17 de Seine-et-Marne. On est à peu près, au départ, il y a deux ans, on était 345 000, 346 000, on doit approcher 350 000 habitants, avec évidemment quelque chose de très particulier. D'abord, la plus grande ville, c'est Sarcelles, avec près de 60 000 habitants, la plus petite, Plessis-Gassot, avec 55 habitants. Donc
oui,
on est de 1 à 1000, vous voyez, quand même, c'est assez étonnant. Et puis, quelque chose encore plus étonnant, c'est qu'on n'a pas de centre. D'habitude, toutes les communautés ont un centre assez dense en habitation, et nous, on a un aéroport au milieu. Donc c'est assez étonnant. Et vous voyez bien qu'on est en plein dans le développement économique. C'est un petit peu particulier. C'est pour ça aussi que l'État avait souhaité que la Seine-et-Marne nous rejoigne. Je crois que c'était une bonne idée. Il nous manque un petit morceau de la Seine-Saint-Denis. Ça aurait été aussi intelligent que par exemple, Tremblay en France, si ce n'est Villepinte, nous rejoigne. Et on aurait fait vraiment un grand Roissy, peut-être encore plus intelligent.
Oui, d'autant qu'à Villepinte, il y a ce fameux parc des expositions.
Exactement, il y a le parc des expositions, avec toutes les zones hôtelières qui concourent aussi à la fois sur le développement de l'aéroport, mais également pour Villepinte. Et puis ben, Tremblay, 35 à 40% de l'aéroport, donc il ne faut pas négliger. C'est quand même curieux que l'aéroport, nous en ayons les deux tiers, et il y a un tiers qui nous échappe, qu'il y ait deux structures différentes pour gérer l'économie d'un aéroport.
Mais donc, les choses ne pourraient pas évoluer dans le futur ?
Alors les choses auraient pu évoluer dans le sens où s'il y avait une réforme encore de la région parisienne, de l'Île-de-France. Le problème, c'est qu'effectivement, nous faire rentrer nous dans un OTP à la sauce actuelle ne nous intéresse absolument pas. On a failli y passer. On a failli aussi être redécoupé à nouveau. Ça aurait été pour la Seine-et-Marne, la quatrième fois en quatre ans, ce qui est quand même assez considérable, parce que c'est quand même des structures lourdes à bouger. Vous savez qu'aujourd'hui, on a encore du mal, on n'a pas complètement fusionné, on a encore des personnels qui sont encore dans l'ancienne communauté, gérés pour notre compte. De ce fait, on a évité le pire, peut-être, d'être redécoupé. On nous a proposé un moment dans l'État est en train d'y réfléchir, et vous savez que la réponse n'est toujours pas donnée. Il semblerait qu'on avait avoir une réponse sur la nouvelle Île-de-France, enfin... Nouvelle métropole de Paris en septembre, on est en mars, on n'a toujours pas de réponse.
Mais quelle est votre position à vous ? Qu'est-ce que vous pensez des limites du Grand Paris ?
Je pense que je serais plutôt aujourd'hui content de rester hors de cette métropole de Paris, parce qu'elle ne marche pas, et qu'on nous dit qu'il faut que Saclay et Roissy les rejoignent pour les sauver, et ça nous ferait couler avec. Donc je l'ai bien dit au préfet de région, j'ai essayé de le dire aussi au ministre, mais c'était plus compliqué, on a du mal à les voir. Et puis l'ensemble des 42 communes s'est opposé à cela. Un, d'abord d'être redécoupé, de prendre que les communes riches et de laisser les pauvres ensemble. Et deux, lorsqu'on m'a proposé de rentrer dans la métropole en disant que je ne serais hors département, que les départements de la première couronne seraient supprimés, que moi-même qui suis sur deux départements de la grande couronne, je ne serais plus dans un département, on serait à part, mais qu'en même temps ils nous rajouteraient les affaires sociales, les collèges, les routes. Autant dire qu'avec les villes qui sont dans ma circonscription, on allait couler encore plus vite. Je rappelle qu'on a quand même fusionné avec Val-de-France, qui sont les communes les plus pauvres du département, si ce n'est maintenant les communes les plus pauvres de l'Île-de-France.
Absolument.
Alors, je pense que ça, c'est rejeté. On va rester indépendant, on va rester dans nos deux départements, avec un fonctionnement où il faut que nos deux partenaires, les deux départements, comprennent que, eh bien, qu'on est un peu à part, qu'on est solidaire avec les deux départements et pas uniquement avec un.
Oui, mais alors il semblerait que justement, donc le projet dont vous parliez a été stoppé, ce qui est une bonne chose, mais par contre maintenant il semblerait que ce serait, les limites du Grand Paris seraient l'ensemble de l'Île-de-France.
Alors ça c'est une possibilité,
alors, qu'est-ce que vous
je
en pensez ?
C'est toujours pas tranché. Je pense que ça serait peut-être une bonne solution pour éviter que la métropole de Paris actuellement, me dit-on, c'est le préfet lui-même, préfet de région qui le dit, est en faillite. Alors s'il est en faillite, il faut s'en sortir. Soit ils vont couler... Et puis, il faut aussi savoir que nous sommes dans un EPCI, c'est qu'on a notre propre fiscalité.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, EPCI ?
Ça veut dire qu'on est on vote un impôt. Vous voyez, les EPT, qui sont dans la métropole de Paris, l'EPCI, il est au niveau central, sur la métropole. Et non plus dans les EPT, enfin les ex-EPCI, c'est compliqué. Mais ils ont plus, par exemple, ils n'ont plus le développement économique. Ils ont un certain nombre de fonctions que nous avons, nous, qu'ils n'ont plus, ou qu'ils n'ont pas. Alors aujourd'hui... La réforme est nécessaire. Maintenant, est-ce que ça passe ou pas par la suppression de certains départements ? Bon, mon avis n'est pas intéressant, je ne sais pas, je pense qu'effectivement il faut aussi faire attention que la région ne se retrouve pas peut-être uniquement qu'avec des communautés, parce que la mienne est grosse, certaines sont grosses, mais il y en a des toutes petites encore en Île-de-France. Il y a des communautés dans le Val d'Oise, ils sont à peine 20 000 habitants, puisque c'est la loi un peu. Mais vous voyez, on n'est pas dans les mêmes notions, et une région qui, il faut peut-être faire attention que les départements continuent à gérer quand même une certaine proximité, plutôt que ce soit la région. Alors je ne sais pas, j'avoue que je laisse ça à d'autres.
Vous restez, vous réfléchissez encore, en fait.
Oui, je réfléchis encore, et puis en même temps, je pense que la réflexion peut certainement venir de nos propres départements et de la région. Je pense qu'ils ont trouvé un consensus entre eux. Je pense que ce ne serait pas stupide que la région reprenne la main sur la métropole. Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de strates.
Ça fait beaucoup de strates, c'est ce que pensent souvent les Français, qu'il y a beaucoup de strates.
Et qu'ils ne comprennent plus rien. Bon, même nos élus ne comprennent plus rien, d'ailleurs, il faut le dire. C'est un des problèmes qu'on a, c'est que les élus, à un certain niveau, arrivent à piger, mais dans les conseils municipaux, quand on va voir qui a été élu dans un village, ou même pas dans un village, ils ont du mal à comprendre toutes ces structures et toutes ces strates.
C'est surtout qu'après, quelquefois, quand on veut défendre des dossiers, on ne sait plus à qui s'adresser, surtout.
Absolument, c'est exactement ça, parce qu'on ne sait plus qui a la compétence. C'est pas très clair.
Et qui savez,
ils ont supprimé certaines compétences et puis beaucoup de départements considèrent qu'ils auraient dû les garder. Alors, c'est un peu hybride. Il y a des départements qui considèrent qu'ils gardent un centre de compétences, les autres ne les ont pas. Il y a maintenant un centre de métropole qui viennent pas s'opposer, mais qui prennent la place des départements. Bon, tout ça n'est pas clair pour les Français et pas clair pour nos élus. Et certainement, quand les gens votent, ils ne comprennent pas grand-chose.
Alors, il faut dire que votre conseil communautaire regroupe 105 membres pour la période 2016-2020.
Oui.
Donc, vous gérez
était 105, on est passé de... En fait, cette fusion, pour être en deux mots, était compliquée, parce que ce n'était pas une fusion simple. C'était une fusion de Roissy-Porte-de-France, donc je le dirigeais avec 19 communes plutôt périurbaines et rurales, avec Val-de-France, très urbanisée, à part Bonneuil, petite commune, mais riche, mais petite, avec 5 communes plutôt, avec une certaine densité de population, plutôt, on peut le dire, en paupérisation, à part Gonesse, les autres villes étaient quand même assez pauvres. Et puis, donc, cette fusion aurait pu être simple, mais elle n'était pas suffisante pour vivre. Et l'État a choisi de casser une communauté de 37 communes en Seine-et-Marne pour en mettre 17 avec nous et 20 toutes seules. J'étais à peu près le seul à dire que c'était stupide. J'ai pas été aidé. Aujourd'hui, je crois que tout le monde regrette ça. Parce que les 17 communes ont apporté, évidemment, beaucoup d'argent à cette nouvelle communauté. Les 20 autres communes qui sont restées de l'autre côté, ben, n'ont absolument pas d'argent, ne pourront pas vivre. Donc, on est 350 000 avec des disparités fortes. On est en train d'essayer de trouver une âme à cette communauté. C'est pas facile. Et qu'on essaye de dire à la population, bah, vous soyez à Clessouilly d'un côté ou à Grécy avec un petit village de Seine-et-Marne ou à Sarcelles, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Les élus, je crois que oui, aujourd'hui. On s'entend bien. On a une bonne façon de travailler ensemble. Certaines ouvertures d'esprit. Tout le monde peut travailler, on n'a pas de clan politique, on essaye de s'ouvrir sur les autres. On a tous décidé ensemble qu'il ne fallait pas faire de groupe politique et que tout le monde pouvait travailler en bonne ambiance, dans une bonne ambiance. Je crois que ça, c'est le plus important.
Donc vous seriez-vous pour fusionner avec les 20 qui sont laissés de côté?
Ce qui me permet, je leur ai toujours dit que j'étais ouvert à cela. Ce n'était pas leur souhait non plus parce qu'ils ne souhaitaient pas fusionner. C'était un peu compliqué. Et puis, vous savez, il y a un autre problème. Vous dites qu'on est 105 délégués, mais si on avait additionné les délégués qui avaient été élus par le peuple, on serait plus de 200. Donc il y en a qui se disent, mais j'ai été élu par le peuple, puis maintenant il faut que je laisse ma place. Voilà un exemple. Roissy avait 3 délégués dans l'ancienne communauté. Vous savez, vous l'avez cité tout à l'heure, je ne suis pas le maire. Il n'y a plus qu'un poste aujourd'hui. C'est président sortant d'une communauté, candidat à cette grosse communauté. Mais si le maire ne m'avait pas laissé sa place, je ne pouvais même plus être président puisque je n'étais plus élu à la communauté, alors que j'avais été élu par le peuple. Donc certains n'ont pas bien réagi. Il s'avère que moi, le maire, et puis l'autre personne qui était devant moi, parce qu'il y a une femme entre nous deux, vous savez, la parité, ils ont accepté de me laisser leur place. Bon, c'était très gentil de leur part. Et puis je crois qu'en fait, on s'entend tellement bien qu'il n'y avait pas de soucis majeurs, mais qu'ailleurs, ça s'est passé d'une façon un petit peu différente, et les gens qui ont été élus ne supportaient pas de ne pas être élus dans cette grande communauté. Et donc, il y a eu des recours. Alors, les recours ont fait beaucoup de choses. J'étais intérimaire pendant un mois, après j'étais président d'une commission spéciale, enfin bon, j'ai passé par tous les statuts possibles avant d'être élu
finalement réélu,
confirmé dans vos fonctions, avec un consensus formidable, hein, parce que tout le monde a été élu. Il n'y avait quasiment pas, pas d'opposant en ce qui me concerne, ce qui était déjà assez, assez sympathique pour moi. Puis également, pour beaucoup de vice-présidents, il n'y a même pas de concurrence. Donc on a été élu extrêmement... Bon, je dirais pas comme Poutine, c'était même un peu mieux, mais j'ose pas le dire.
On va peut-être pas parler de Poutine aujourd'hui, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc justement, un sujet qui fâche, vous concernant peut-être, c'est eh bien, le tribunal administratif qui a proposé l'annulation de la déclaration d'utilité publique du BIP, qui considère insuffisante l'analyse des conditions de financement présentées. Alors expliquez peut-être aux auditeurs qu'est-ce que c'est que le BIP, et qu'est-ce que vous pensez de cette décision.
Une fois de plus, c'est regrettable pour notre territoire, puisqu'il y a deux décisions, on en parlera peut-être tout à l'heure, deux décisions, une qui concerne le triangle de Gonesse et une sur le BIP, et les deux atteignent mon propre territoire. Alors, sur le BIP, c'est le boulevard du Parisis.
Interurbain du Parisis.
Et qui était absolument nécessaire pour faire une liaison intelligente entre Pontoise, Cergy et Roissy, et qui passait évidemment par le sud de ma communauté. Alors, je trouve que cet arrêt supplémentaire, c'est encore un coup de poignard supplémentaire sur le développement du secteur et surtout pour permettre aux gens de venir travailler plus facilement sur cette grande zone de Roissy. Hein. Je rappelle aujourd'hui que Roissy, aéroport, mais toutes les zones qu'il y a autour, il y a plus d'emplois qu'à la Défense. Aujourd'hui, nous avons dépassé ça. Et personne n'en parle suffisamment. Mais c'est vraiment très attractif. Et nous sommes maintenant dans un développement qui a repris son cours d'une façon relativement forte avec... sachez-le, une possibilité que l'aéroport qui aujourd'hui fait 67-68 millions de passagers pourrait monter à 120 millions, si ce n'est à 130-140 millions dans les années qui viennent, puisque comme vous le savez, personne ne veut d'un troisième aéroport en Île-de-France, si ce n'est même dans les régions voisines. Et donc notre développement est assuré pour plus de 30 ans. Ce qui est assez extraordinaire, il y a un chef d'entreprise à côté de moi, s'il savait qu'il pouvait lui compter sur 30 ans de développement, il signerait tout de suite.
Hein? Alors justement, vous avez parlé de l'autre annulation toute récente, c'est la ZAC de Gonesse, c'est-à-dire... et puis, tout ça, ça va avec. Et puis, il y a aussi le problème du report à 2027 de la fameuse ligne 17. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez pas? Je ne sais pas.
D'abord, ce qui a été annulé, c'est une décision du préfet. Hein, ce n'est pas autre chose que cela. C'est donc c'est le préfet qui doit représenter un dossier... puisqu'il semblerait qu'il n'y ait pas assez de concertation, notamment...
Pour les études d'impact.
Les études d'impact. Alors, je vous assure qu'il y en a eu beaucoup, quand même. Alors, peut-être que ce n'est pas suffisant, mais franchement, il y en a eu beaucoup.
Mais ça coûte cher, tout ça, les études d'impact.
Ça coûte extrêmement cher, parce que ça dure des années, c'est extrêmement long, il faut convoquer un certain nombre d'organismes importants, il y a plein de réunions publiques, il y a plein de dossiers à monter qui sont relativement compliqués, qui sont lourds, qui sont regardés par tout le monde à la loupe. Donc, je pense que... Bon, bah, c'est encore une mauvaise surprise supplémentaire sur notre secteur qui n'en a pas besoin. Je vous rappelle, la contestation sur ce triangle, elle est quand même formidable. C'est un triangle qui nous permet de développer. Nous avons droit de se développer au schéma directeur de l'Île-de-France. Nous avons rendu des terres agricoles en conséquence pour pouvoir le développer. Et je suis le premier signataire d'une charte agricole sur un territoire, avec toutes les personnes qui concourent au développement agricole. En contrepartie de cela, on pouvait développer 280 hectares sur Gonesse. Et 280 hectares, c'est en face, de l'autre côté de l'autoroute, tout est développé depuis longtemps, hein, une fois de plus. C'est encore le Val d'Oise qui trinque. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Sur les 280 hectares, on prévoit un projet qui s'appelle Europa City, qui est contesté par certains. C'est quand même 11 500 emplois. Même s'il en supprime quelques-uns, on est arrivé à dire qu'il y aura au moins 9 000 emplois nets, ce qui est quand même considérable. Projet de plus de 3 milliards d'euros. Il ne doit pas y en avoir beaucoup en Europe en ce moment. Je ne le connais pas. Je pense que c'est certainement le projet le plus ambitieux, avec que du privé. Une fois de plus, on ne fait pas appel à l'État, qui d'ailleurs ne pourrait pas payer. Ensuite, il y a bien d'autres projets. Il semble, on pourrait imaginer, sur les 280 hectares, développer au moins 50 000 emplois.
50 000 emplois ?
Oui, on n'en parle pas assez. Nous avons déjà un autre projet qui est sur une sorte d'agriculture de ville, où il y aurait 12 000 emplois, sur 11 hectares. Donc en fait, tout ça s'additionnant, on a des projets concurrents qu'on nous montre, des projets extrêmement agricoles où il y a 10 ou 15 emplois, parce qu'on n'est pas dans la même configuration. Alors pourquoi aussi on voulait un métro automatique? Parce que franchement, un pays qui n'est même pas capable de relier son aéroport international à la ville principale, à la capitale, c'est quand même regrettable. Moi, quand j'ai rencontré Christian Blanc, qui est allé à l'origine de ce grand métro parisien, La première chose qu'il m'a vendue, c'est qu'il m'a dit « L'entrée doit se faire par Roissy. C'est notre image de marque. C'est là que tous les passagers internationaux viennent, et ils viennent par Roissy. » Bon, d'une part. D'autre part, il faut absolument qu'on développe. Alors, certains se sont un peu opposés à cette ligne du métro, la ligne 17, parce qu'évidemment, mettant un arrêt à Gonesse, ça permettait de développer le secteur. Mais tout va ensemble. Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas normal de sortir aussi de cette situation malheureuse où tous les habitants du Garges, Villiers-le-Bel, Sarcelles, une partie de Gonesse ne peuvent pas venir travailler parce qu'ils sont obligés de prendre le métro, la RERD, redescendre à la Gare du Nord et revenir par la RERB. Trouver ça, c'est extrêmement pénible. Alors que bien d'autres peuvent venir plus rapidement et prennent des emplois à la place de ces gens-là. Donc tout ça, nous nous battons comme vraiment tous ensemble pour dire à l'État, stop, ça suffit. Les emplois de Roissy ne sont pas des emplois uniquement appartenant à Ménilmontant ou à Roissy ou à Morgard, les villes d'à côté. Ce sont des emplois du niveau national. Il y a des sociétés qui viennent, si elles ne viennent pas à Roissy, elles ne viendront pas ni à Lyon, ni à Limoges, ni à Clermont-Ferrand, ni à Marseille. Elles iront à Francfort, ailleurs, à Londres ou à Amsterdam.
Oui,
voyez,
c'est ce dont on a peur, que le projet se
et si
se
ce projet
ne
se fait pas, il ne sera pas en France par ailleurs. Voilà.
Mais comment est-ce qu'on voit qu'on a du mal à faire comprendre à l'État des investissements à long terme? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en France? Quand on voyage, on voit bien dans les autres pays que ça se développe beaucoup plus vite.
Je pense qu'il y a toujours eu un problème avec Roissy. Je ne sais pas pourquoi, mais Roissy a été écarté pour beaucoup. Alors, l'idée de le faire à Roissy avait été bien réfléchie pendant un moment, mais je pense qu'effectivement, l'État n'a pas su... Rappelez-vous, au départ... L'autoroute A3 n'existait pas, il n'y avait qu'une seule autoroute pour venir à Roissy, c'était l'A1 qui était déjà bien surchargé. Il y avait le RERB a été mis après l'aéroport, et il ne s'arrêtait pas dans les aérogares. Vous savez, on a repassé un film l'autre jour, inaugurant le RERB en 1975, je crois, de mémoire. Et dedans, il y avait quelqu'un de la SNCF qui avait dit, qui prend la parole, bienvenue sur le spécial RERB entre Air France et SNCF, et dans 3 ans, vous allez voir, on va refaire un nouveau système de transport. Eh bien, vous voyez, 75, là, ça fait 30 ans qu'on... 30 ans, oui, 40 ans qu'on attend un système différent. Et il est reporté. Alors, nous nous sommes battus pour essayer de voir le Premier ministre. On nous a cantonné rue du Bac, vous avez dû le savoir. On fait peut-être quelques reportages. On a réussi à voir quelqu'un au ministère des Transports. Le Premier ministre nous a reçus. Nous assurer qu'il ferait le maximum. Aujourd'hui, c'est tombé. C'est retardé de 3 ans. Et je trouve que c'est parfaitement regrettable, à la fois pour le triangle de Gonesse, mais également, c'est important. Vous avez dû savoir que l'aéroport de Paris ouvrait une nouvelle aérogare qui s'appelle le T4 en 2024. Et c'est 30 millions de passagers. Et 30 millions de passagers supplémentaires, c'est le Orly actuel. Alors, vous croyez que ça ne méritait pas qu'on ait un métro en 2024?
Alors, dernière question au niveau national par rapport à tout ça, c'est le projet de vente d'ADP. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, d'abord, à titre personnel, je prononcerai qu'il faut faire extrêmement attention. D'abord, c'est vendre un bijou aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'il est vendu. Il faut mieux vendre un bijou que quelque chose qui ne marcherait pas. Mais bon, en même temps, une fois qu'on l'a vendu, c'est un peu comme les autoroutes, on n'en tire plus profit. Nous, on va être extrêmement méfiants parce qu'aujourd'hui, c'est une source de revenus extrêmement importante pour tous à la fois les départements, bien entendu, et puis toute ma communauté actuelle, les communautés, puisqu'il y en a deux, qui sont sur cet aéroport. Donc, on va être extrêmement vigilants pour voir si l'État ne brade pas tout cela et qu'on ait les mêmes ressources après. Donc, il va falloir évidemment qu'on regarde à la loupe cette vente. Et on sera extrêmement vigilants.
Donc, vous êtes d'accord avec nous, c'est-à-dire que c'est voir à court terme au lieu de voir à long terme, finalement.
C'est certain, il faut faire attention. Je pense qu'une fois qu'on a vendu, après, on peut peut-être pleurer. Alors, à vérifier. Mais est-ce qu'ils vont tout vendre? Est-ce qu'ils vont vendre les infrastructures aéroportuaires ou pas? Tout ça, il faut bien qu'on regarde. Est-ce qu'ils vont rester propriétaires des terrains ou pas? Vous savez, en province, c'est un peu différent de Paris. L'aéroport de Paris était l'émanation de l'État, ce qui n'était pas le cas par les chambres de commerce en province. Donc, je ne sais pas, il faut qu'on regarde en détail. Mais en même temps, s'ils ne vendent pas tout, ça ne sera pas le même prix.
Alors, éventuellement, pourquoi est-ce que, après tout, une région ou des départements ne pourraient pas s'allier pour racheter, finalement, si l'État veut vendre?
Je ne sais pas, mais le prix qui est de 8 milliards et demi, je pense, je ne sais pas. On disait même les communautés, mais moi, je ne sais pas comment j'irai chercher l'argent. Vous voyez, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Donc, il faut s'associer, en fait.
En même temps, aujourd'hui, plus on emprunte et plus on s'endette, plus moins on reçoit de subventions de l'État. Vous savez que la nouvelle règle qui vient de tomber pour les communautés comme la mienne ou comme les départements, alors on est coincé un petit peu. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que ça pourrait se partager? Il faut une société d'économie mixte avec des privés. Peut-être. Faut imaginer cela, mais c'est compliqué. Hein. C'est quand même un gros morceau. C'est un gros morceau, hein, parce que derrière cela, derrière Porte-Paris, il n'y a pas que Paris hein, aujourd'hui. Ils ont à moitié des aéroports turcs, ils ont des aéroports en Amérique du Sud, etc. C'est un groupe international lourd.
Lourd. On va tout de suite, Patrick Renaud, si vous voulez bien, faire une petite pause avec vous et je vous propose un petit bijou qui va sortir fin avril. Écoutez. Ça, c'était les Parisiennes, à ce qu'on est bête. Eh bien, les Parisiennes, c'était un groupe qui existait il y a 40 ans. Et cette fois-ci, il est reformé avec Ariel Dombal, Ina Modja, Elena Noguera et Marina Galanter. Un disque qui va sortir le 27 avril. Soyez à l'écoute, ça vaut le coup. Alors tout de suite, c'est le débrief du sport. Bruno est revenu de vacances. Bruno Vigoureux, bonjour.
Bonjour, bonjour Florence, bonjour à tous. Bah, je voudrais commencer par vous dire un grand bravo, mesdames. Oui, bravo les filles. Vous avez été fantastiques ce week-end. Je parle des filles de l'équipe de France de rugby qui ont non seulement remporté vendredi le tournoi Destination, mais se sont aussi offert un grand chelem flamboyant. Les filles du 15 de France n'ont laissé aucune chance au Pays de Galles et se sont nettement imposées 38-3. Bravo aussi les filles de l'équipe de France de biathlon qui en Norvège ont remporté le samedi le relais 4x6 km et terminent ainsi la saison en apothéose. Pour Marie Dorin qui met un terme à sa carrière, il n'y avait pas meilleure conclusion à un parcours magnifique. Et les garçons là-dedans, ils sont où? Ils vont bien, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, le 15 de France a perdu à Cardiff, 14-13, mais il y avait bien longtemps qu'une équipe de France n'avait pas inquiété un adversaire si coriace sur son terrain. Alors bien sûr, à la fin, il y a la défaite, mais celle-ci laisse entrevoir une petite lueur d'espoir et n'a rien à voir avec les consternants matchs de l'automne dernier. Ça ne se voit peut-être pas encore, mais le soleil semble pointer à l'horizon pour les Bleus. Alors, il y a les filles, les garçons et aussi les gamins. Car chez les moins de 20 ans, la France a remporté le tournoi des 6 nations en battant les Gallois 24-3. Quand on vous dit que le soleil se lève. Revenons à notre championnat de France pour signaler la victoire du Racing 92 qui a dominé le Stade français dans un derby toujours tendu. Une victoire en fait qui revient en partie au président du Racing, Jacky Lorenzetti. Oui, car son équipe était menée à la pause 14-7. Alors il est descendu furieux dans le vestiaire pour pousser une grosse gueulante et rappeler à ses joueurs l'importance de cette rencontre. À l'arrivée, une victoire du Racing 28-22 et une défaite de plus pour le Stade français, toujours englué dans le bas du classement et qui va devoir cravacher pour se maintenir en top 14. Le soleil brille de nouveau pour le Paris SG qui en foot s'est imposé à Nice 2-1 hier et file tranquillement vers la reconquête de son titre de champion de France. En handball aussi, la vie est belle pour le PSG qui a écrasé Toulouse en finale de la Coupe de la Ligue 40-30. Il y a les filles, les garçons, les gamins, je vous l'ai dit, mais il y a aussi les champions. Le français Martin Fourcade, déjà héros des Jeux Olympiques en Corée, continue sa course vers la gloire. Victorieux samedi en Norvège de la poursuite, il trace sa route vers le gros globe de la Coupe du Monde. Et puis, il y a le champion du siècle, votre chouchou Florence, Roger Federer avec son nouveau look, barbu. Hier soir, il disputait la finale du tournoi d'Indian Wells contre le redoutable argentin Martin Del Potro. Le Suisse se présentait sur le court invaincu en 2018, avec une série de 17 victoires. Mais hier, après avoir pourtant eu 3 balles de match, Federer s'est incliné en 3-7. Ne soyez pas triste, Florence, quelque chose me dit qu'on va parler très vite de votre chouchou. Pour finir, un énorme coup de chapeau à l'équipe de France paralympique qui revient de Corée avec 20 médailles autour du cou des Jeux qui viennent de se terminer. C'est un record et ça mérite bien un grand bravo. Au revoir et à bientôt.
Merci Bruno, à la semaine prochaine. Donc tout de suite, retour à l'économie avec Patrick Renaud. Vous êtes président de la communauté d'agglomération de Roissy de France, Roissy en France, non Roissy Pays de France, je vais y arriver. Et ce soir, le 19 mars, se déroulent les finales des challenges du numérique. Alors de quoi s'agit-il ?
En fait, il s'agit de remettre des prix à des gens qui, à des équipes qui sont engagées d'imaginer des solutions numériques qui permettront une transformation digitale pour l'ensemble de notre population. Alors cette année, la thématique porte sur la ville de demain. Et donc on va remettre ces prix ce soir à partir de 17h30 dans notre communauté. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une ambiance très différente. Et je crois que ça serait bien qu'un jour vous puissiez recevoir notre vice-président qui est Charles Soufir, qui s'en occupe
avec
les services de chez nous d'une façon formidable.
De toute façon, on est
engagé sur ces problèmes-là.
On parle beaucoup de numérique et on reçoit en principe une start-up par jour dans cette émission.
Formidable.
Donc on va l'inviter avec pour qu'il nous parle.
On vous donnera ceux qui ont gagné ces prix.
Voilà, on vous viendrait avec les lauréats. Donc demain, on attend la réponse de la finale qui se déroule ce soir, le 19 mars. Alors demain, 20 mars, vous avez aussi une autre actualité, c'est le lancement de la première édition du Printemps de l'Emploi. Qu'est-ce que c'est ?
Bien, on veut lancer, pour faire... En fait, en deux mots, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, on est quand même assez atypique. On a 64 zones d'activité, plus 12 en formation, ça fait 76...
C'est énorme, on ne se rend pas compte.
Mais c'est assez fabuleux.
Donc vous disiez d'ailleurs, première zone d'emploi, plus même que la Défense.
Je pense que si on additionne, y compris donc la partie qui est sur le 93, mais qui fait partie du Grand Roissy, on dépasse certainement les emplois de la Défense aujourd'hui, d'une façon très forte, et avec beaucoup d'emplois indirects aussi liés au développement de la logistique et au développement de l'aéroportuaire.
Donc il y a un besoin
Donc on a un besoin
Il y a des jobs à pourvoir.
Et voilà, donc on va faire le tour de l'ensemble de nos communes dans les semaines qui viennent, avec beaucoup de communication. Vous savez, à chaque fois qu'on a essayé de faire... Lorsqu'on a lancé Héroville, vous savez, ce grand magasin, enfin supermarché, enfin je ne sais pas comment dire, ensemble de commerce sur l'aéroport qui s'appelle Héroville. Alors on a fait deux réunions, une à Goussainville et une à Villepinte. À Villepinte, il y a eu 13 000 personnes qui sont venues. Et à Goussainville, il y a eu 8 à 9 000. Et je peux vous assurer que c'était poignant. Parce qu'on voyait des gens qui avaient fait beaucoup d'efforts, qui s'habillaient, qui essayaient de trouver des solutions. Et en plus, il faisait un temps de chien. Et moi, j'étais impressionné. On dit que les gens sont... Certains disent oui, ils cherchent pas beaucoup. Oui, ils en cherchent. C'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile aussi de travailler sur un aéroport où les horaires sont pas les mêmes qu'à la Défense. On travaille 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec des horaires décalés. Et donc c'est compliqué de faire venir l'emploi, de faire venir les habitants de nos communes sur ces emplois-là. En plus, on n'a pas beaucoup de transports intelligents, vous le savez bien. Les transports, ils ne sont pas adaptés à ce genre d'emploi.
On n'a pas de transports transversaux,
voilà,
en plus, dans le Val d'Oise.
Et puis en plus, pas aux horaires qu'on escompterait, nous. Alors donc, bien sûr, on veut faire venir les élus. Tous les élus de nos communes, maintenant, sont conscients qu'on doit faire quelque chose de supplémentaire. Alors, on s'y est beaucoup engagé. J'ai beaucoup de personnes engagées sur ces systèmes-là. On ne baisse pas les bras, mais en même temps, sachez-le, vous vous rendez compte, on est 350 000 habitants, j'ai qu'un seul IUT pour les 350 000 habitants, il est à Sarcelles, vous voyez, donc c'est pas facile, en plus j'ai deux, il y a un autre problème, vous voyez, sur la formation et sur l'éducation, à côté de l'autoroute, on est sur Créteil, l'autre côté, on est sur Versailles, j'ai deux rectorats, c'est compliqué tout ça, et donc on essaie de faire travailler les rectorats ensemble, c'est une première, ils commencent à accepter que des élèves de Seine-et-Marne puissent venir de l'autre côté et vice-versa. Là aussi, c'est important pour nous qu'il n'y ait pas cette coupure administrative habituelle en Île-de-France avec deux rectorats différents. Donc on essaye de faire bouger cela et que par l'intermédiaire de beaucoup de sociétés qui pourraient présenter aussi les emplois qu'ils ont à donner dans le futur, nous, on essaye d'y réfléchir plusieurs années à l'avance pour trouver avec l'État et avec la région les formations qui vont le mieux et les départements. Vous voyez, parce qu'on sait... Par exemple, Europa City, que tout le monde dénigre. Mais nous, on travaille déjà avec Europa City pour dire sur les 11 000 emplois, on a intérêt à préparer les formations voulues pour que nos habitants puissent y participer et que ce ne soit pas uniquement les autres venant des autres villes hors communauté.
Donc, qui peut venir au printemps de l'emploi et où ?
Ben, alors, en plus, on vous donnera les agendas, les calendriers, parce qu'il y a beaucoup de villes.
Voilà, on le redonnera, en détail à l'antenne.
La directrice de la COP vous dira ça.
Voilà, exactement. Voilà, à partir de demain. Dernier sujet, parce qu'il nous reste 5 minutes ensemble. On va parler un petit peu de Roissy Dev, du développement économique, puis de votre retour du MIPIM. Est-ce que c'est incontournable, le MIPIM ?
Oui, c'est incontournable. Quand on s'appelle Roissy, on doit y être. Vous savez, Roissy a une particularité formidable. C'est que quand je vais à l'étranger, tout le monde le connaît. On est connu dans le monde entier. Donc, on n'a pas besoin de dire où ça se trouve. Alors, évidemment, il y a Paris. Il n'y a pas Paris. Il n'y a évidemment pas d'aéroport de Roissy, mais nous, on est connu. Donc, c'est déjà important. Et qu'en plus, on a 76 zones d'activité futures, on se doit d'y être. Parce que ça serait extrêmement malheureux qu'on ne soit pas dans ces grands salons internationaux. Alors, bien sûr.
Donc, c'est un salon qui a lieu à Cannes, il faut rappeler.
Cannes, tous les ans.
Et qui rassemble. Des zones d'activité.
Tous les constructeurs, tous les aménageurs, aussi bien en activité et en logement, et qui viennent proposer aux communautés, aux villes, aux régions un certain nombre de. Et c'était un lieu de rencontre important. Et je peux vous dire que depuis 2 ans, on a senti qu'il y avait une reprise. Les années antérieures, on sentait qu'il y a beaucoup de gens qui venaient, mais c'était surtout pour palabrer. Là, ça bouge. Et ça signe. Et il y avait du monde. Il y avait 35 000 personnes qui sont présentes. C'est un salon extrêmement important. Alors, il y a d'autres salons aussi. Il ne faut pas les négliger, notamment à Paris, le CIMI. Mais je crois que ces deux salons-là, nous sommes obligés d'y être. Et puis c'est bien, j'ai rencontré beaucoup. Vous savez, il n'y a pas que le salon par lui-même. Il y a tous les apartés qu'on peut avoir avec les élus, avec des grosses sociétés, avec un certain nombre de personnalités qui font qu'en fait, c'est assez riche.
Alors, quels sont les objectifs de Roissy Dev pour 2018 ?
Ben, Roissy Dev, aujourd'hui en 2018, c'était de prendre en compte depuis 2 ans la diversité. C'était de récupérer. Nous avions que 19 communes, on en a 42, avec un développement exceptionnel. Et puis, nous avons fusionné avec une autre association qui s'appelait Aérotropolis. Aérotropolis, c'était les grandes signatures autour de Roissy qui pensaient que, par FedEx, lorsqu'on avait un aéroport, on pouvait aussi imaginer que cet aéroport, les zones de développement de l'aéroport, pouvaient se développer parce qu'il y avait un aéroport. Alors je m'explique, par exemple à Memphis, où il y a FedEx International, il y a des sociétés qui sont venues juste à côté, par exemple pour faire des analyses de sang pour le monde entier, parce que ça repart le lendemain, pour faire des sociétés qui avaient des bras articulés, des jambes articulées, qui mettaient leurs entrepôts là pour les expédier dans le monde entier. Voilà. Et nous, on pense qu'il y a cette Aérotropolis Europe doit se faire à Roissy. Et donc, on a fusionné avec Roissy Développement. Donc, aujourd'hui, ça prend une échelle formidable. C'est-à-dire que Roissy Développement est quand même un élément essentiel. Et j'ai demandé à mes élus de me laisser le développement économique. Et je pense que tout le monde trouve bien que le président s'engage, ce qui est l'élément numéro un. S'il n'y a pas de développement, on n'aura pas le logement, on n'aura pas les transports, on n'aura pas la formation, etc., les équipements publics. Donc tout le monde a pensé que c'était une bonne chose que
tous les sujets, donc c'est quand même, au niveau économique, c'est quand même indispensable.
Et donc j'ai ces deux casquettes.
Pour faire avancer les dossiers. Merci beaucoup, Patrick Renaud. Alors, une petite actualité tout de même pour toute votre zone d'activité, c'est bientôt le 10e Festival de littérature jeunesse jusqu'au 7 avril, avec la clôture du Salon de littérature jeunesse à Arnouville, spectacle, animation et exposition. Jusqu'au 20 mai, l'exposition au musée Arkéa, Les Petits Pots dans les grands. Et puis le cinéma intercommunal à Fosse, labellisé Art et Essai depuis 1995, où se jouera La Belle et la Belle à partir du 21 mars. Allez, tout de suite, on passe la parole à notre second invité, Christophe Dépé. Vous êtes président de DTP2I, qui fait de l'enrobé projeté, une technique de maintenance des routes. Expliquez-nous votre technique, vos technologies, comment ça se passe ?
Oui, donc je vais déjà vous présenter un peu DTP2I. DTP2I, c'est une PME complètement indépendante. Aujourd'hui, dans le monde des travaux publics, ça devient extrêmement rare. Donc c'est une PME de une trentaine de personnes. On aura 13 ans d'existence le 1er avril. Et on a une moyenne d'âge sur cette entreprise qui est autour de 35-36 ans.
Très jeune, donc.
Voilà. Et en 13 ans, c'est 16 apprentis qui ont été diplômés. Formés et diplômés.
Ah, c'est donc, bien, donc bravo.
Ça me fait toujours sourire quand on parle beaucoup d'apprentissage aujourd'hui. Nous, c'est un des fondamentaux de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on est une entreprise de travaux publics, on ne peut plus classique, sauf qu'il y a 4 ans, avec les problématiques liées aux fortes réductions de dotations en direction des collectivités territoriales, qui sont une grosse partie de nos clients. Hein. DTP2I, c'est à peu près 80% de marché public. On a imaginé essayer de trouver des solutions pour nos clients qui étaient confrontés à une dégradation sans discontinuer de leur patrimoine routier et en parallèle des budgets qui partaient complètement en quenouille. Et donc on s'est intéressé à des techniques qui existaient déjà, qui avaient déjà commencé à être utilisées un peu en province, parce que la province, je pense qu'elle a été d'abord touchée avant la métropole parisienne. Et donc on s'est orienté vers cette technique qui s'appelle l'enrobé projeté, qui est une technique qui a été fortement développée dans l'hémisphère sud, chez les anglo-saxons de l'hémisphère sud, c'est-à-dire les néo-zélandais, les australiens, qui est en fait une technique qui est surtout à base d'émulsion de bitume, plutôt que d'être à base de bitume pur. Mais ça nécessite une maîtrise un petit peu particulière, une technologie un peu particulière. Et puis donc on s'est lancé là-dedans au plus fort finalement de la crise, c'est-à-dire en 2014, la crise des travaux publics. Hein. C'est-à-dire que sur l'Hexagone, le monde des travaux publics, c'est à peu près 30% de contraction du volume. Donc c'est quand même
un métier
extraordinairement sinistré, lié de toute façon aux problématiques des collectivités territoriales qui n'avaient plus de budget. Donc on s'est lancé dans cette technique avec un constructeur qui est un constructeur allemand à Stuttgart. Et aujourd'hui, on est un des leaders de l'enrobé projeté en France. Il y a une cinquantaine de machines en France. Donc ça permet en fait de réparer durablement des itinéraires. Ça ne rénove pas complètement la couche de roulement, mais ça permet de la mettre en sécurité, ça permet de la réparer suffisamment, de manière suffisamment étanche, pour que des dégradations plus fortes n'arrivent pas.
Oui, mais alors soyons concrets, parce que nous, on n'y connaît rien, évidemment, on n'est pas dans ce métier. S'il y a un trou dans la route, vous arrivez, vous remplissez, et puis ça répare. C'est ça que vous voulez nous dire, en fait.
Voilà, contrairement à ce qui existait auparavant, qui était quelque chose qui permettait de réparer rapidement, mais qui ne tenait finalement pas et qui était quand même très cher, qui s'appelle l'enrobé froid. Là, on intervient, on met une couche de colle et on remplit la dégradation avec un matériau granulaire et enrobé d'émulsion de bitume. C'est pour ça qu'on parle d'enrobé projeté.
D'accord.
Et nous, on a été plus loin chez DTP2I parce qu'on y a investi pas mal de recherche et de développement sur les matériaux et on a créé une marque qui s'appelle EP+. By DTP2I, pour bien d'ores et déjà se démarquer d'une certaine concurrence qui pourrait tomber dans la facilité, parce que je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour nos clients, hein, qui sont effectivement extrêmement demandeurs qu'on leur trouve des solutions. Je pense que j'ai un voisin qui sait ce que c'est que d'avoir des arbitrages budgétaires à faire, qui sait ce que c'est que de répondre à des riverains avec des dégradations dans leur rue, qui sait ce que c'est que la responsabilité qu'on peut avoir en tant que propriétaire d'itinéraire quand il y a vraiment de grosses dégradations par rapport aux circulations, notamment des deux roues. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment investi dans de la recherche sur des matériaux pour vraiment fiabiliser cette technique.
Voilà, et donc pour garantir la qualité, vous avez créé une marque.
Voilà, exactement. Donc,
alors dites-nous concrètement, au niveau prix, parce qu'il faut quand même être concret, on est en radio.
Bien sûr.
Un élu nous écoute, ça coûte combien en moins par rapport aux autres solutions habituelles?
Alors, c'est une technique qui coûte 4000 euros hors taxe par jour. Alors, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais avec 4000 euros hors taxe par jour, une communauté de communes, un maître d'ouvrage propriétaire d'un réseau peut arriver à réparer durablement un itinéraire sur lequel il aurait été obligé d'engager 200 000 euros pour renouveler complètement la couche de roulement. Alors encore
donc
une fois,
en fait, on parle de prix en mètres linéaires, j'imagine.
Oui. Alors là, justement, nous, on a cette technique, on l'aborde plus comme un service, hein, comme une prestation de service, puisque c'est l'idée, c'est d'aller mettre en sécurité, d'aller réparer un itinéraire qui ne peut pas être complètement renouvelé parce que, par exemple, les arbitrages budgétaires qui ont été décidés ne le permettent pas.
Alors, autre question que j'avais envie de vous poser, c'est le fait que vous travaillez uniquement en remplissant des dossiers de marché public. Alors, est-ce que c'est le parcours du combattant ?
Alors, nous avons une particularité des TP2I, c'est que cette entreprise, on l'a créée il y a 13 ans et on a fait nos armes, mes collaborateurs et moi, dans des grandes structures. Donc, ça...
Oui, je l'ai dit en introduction, vous étiez chez Colas.
Plus facilité. Et j'ai du mal à me projeter dans la situation de quelqu'un qui créerait aujourd'hui sans avoir eu cette habitude. C'est vrai que je pense que ça serait particulièrement compliqué parce qu'on s'aperçoit, même nous qui sommes rompus à la technique de réponse, que ça ne va pas en se simplifiant. Voilà.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Bien sûr. Contrairement à ce qui est dit.
À ce qui est dit, oui, parce que. C'est ce que appelle le gouvernement actuel à simplifier les tâches administratives, ouais, mais là, en l'occurrence, non.
Mais pas que le gouvernement actuel. Je crois que ça fait quelques gouvernements que les gens appellent à la simplification et que
ça
sur le terrain, ça ne se traduit pas vraiment. Quoi.
Donc, vous pensez qu'il faut attendre encore un petit peu pour la simplification ?
Bah, je pense qu'il faut continuer à leur demander qu'ils continuent à intensifier leur volonté.
Venir au
de...
micro.
Voilà.
D'accord, merci beaucoup Christophe Dépé. Alors, actuellement, quels sont vos besoins pour vous développer ? Qu'est-ce que vous...
Aujourd'hui, on connaît sur la maintenance routière, évidemment, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité, on a réorienté l'entreprise vers cette activité-là, qui est vraiment extrêmement innovante. Donc aujourd'hui, on a un développement qui est assez fort, puisqu'on est passé en 2014 d'une unité de réparation routière à 4. La quatrième arrive cette année, elle sera entièrement avec une énergie propre. Elle sera entièrement au GNV. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Et c'est pour ça qu'on sera présent au mois d'avril au salon de la MIF. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a du mal à se faire connaître. Donc on a besoin de communiquer sur le sujet. C'est surtout ce vers quoi on a réorienté l'entreprise à l'automne dernier, c'est communiquer sur ces
nouvelles techniques et la qualité de votre réparation.
Sur ces solutions qu'on peut apporter et qui en fait sont en plein dans le développement durable d'ailleurs, parce que là, on parle bien de faire durer des chaussées, quoi.
Pour le coup, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin à tous les deux. Peut-être que je vous repasserai la parole pour un petit mot de conclusion, mais il nous reste 4 minutes d'antenne et j'ai quelques infos à vous transmettre. Alors, le comité opérationnel départemental antifraude du Val-d'Oise s'est réuni le jeudi 15 mars sous la coprésidence de Jean-Yves Latournerie, préfet du Val-d'Oise, et d'Éric Corbeau, procureur de la République de Pontoise, afin d'établir le bilan 2017 des actions menées par les services de l'État dans la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Et tenez-vous bien, c'est plus de sous l'autorité du parquet, les enquêteurs ont permis de saisir au sein du patrimoine des fraudeurs plus de 7 millions d'euros en Val-d'Oise, le double du montant de 2016. 306 opérations ont été menées et au total, c'est 38 millions de détections de fraude aux prestations sociales, fiscales et de travail dissimulé. C'est énorme. Autre sujet, bientôt des robots pollinisateurs pour remplacer les abeilles. Plusieurs projets de robots sont en cours d'essai. Le dernier en date vient d'un investisseur Walmart dans la chaîne d'alimentation américaine. Ces robots seraient équipés de caméras et de capteurs. Ils repéreraient des fleurs, prélèveraient le pollen et le transporteraient. C'est quand même formidable, tous ces petits robots. Alors, une petite info également pour vous. Je suis sûre que vous êtes utilisateur de Dropbox. ou de WeTransfer pour transférer vos fichiers lourds. Et oui, des solutions américaines. Aucun Français, pour l'instant, n'a développé ce genre de choses parce qu'en France, on n'a pas de vrais investisseurs en capital risque. Les Français ont peur. Eh bien, Dropbox serait en phase d'être intégré à Microsoft pour nous permettre de pouvoir transférer nos fichiers. L'Oréal annonce l'acquisition de Modiface, une entreprise canadienne spécialisée dans les domaines de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle appliquée à la beauté. Le groupe français de cosmétiques acquiert 100% de cette société qui développe des technologies d'essais virtuels 3D de maquillage, de coloration et de diagnostic de la peau. Autre intérêt, c'est le groupe Carrefour qui va s'équiper d'un QR code qui sera affiché sur l'étiquette de la viande et comme ça ils pourront retracer le parcours de l'animal de son élevage jusqu'au rayon du supermarché, c'est-à-dire grâce à la blockchain. C'est la première fois que cette technologie est appliquée dans le secteur alimentaire en Europe et ça vaut le coup d'être dit, nous dit donc Carrefour. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission de données transparente et sécurisée dont une des principales applications est la création de crypto-monnaies, mais ça je vous en parlerai lundi prochain, on fait un sujet spécifique sur la crypto-monnaie. Allez, on va se quitter, on vous dit au revoir, à demain, on se quitte avec Slimane, son titre qui vient de sortir qui s'appelle Viens on s'aime, bonne journée, l'équipe d'Isabelle Durand arrive pour de la musique. Au revoir.
Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez viens.
Christian, que se passe-t-il donc vendredi 20 avril à 20h à l'église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains ?
100 étudiants, jeunes musiciens de l'American School de Londres présentent une heure de musique dynamique et vivante.
Quel est le programme ?
L'orchestre d'harmonie et le jazz band présenteront un programme composé de musique de Duke Ellington, Count Basie et les grandes œuvres pour orchestre avant de Respeghi et Dick Ely.
Dites-moi, l'entrée est-elle libre ?
Oui, l'entrée est libre, avec libre participation au profit du centre pastoral San au Mali qui accueille et éduque de jeunes maliens.
Ne manquez pas ce concert spectacle le vendredi 20 avril à 20h à l'église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains.
Pour ses 35 ans, Radio Enghien IDFM 98 présente son deuxième festival Balade musicale sous la direction artistique du pianiste Tristan Pfaff qui aura lieu les 6, 7 et 8 avril à l'église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains. Au programme, un orchestre, du chant, du violoncelle et du piano dans des œuvres de Vivaldi, Handel, Gluck, Mozart, Schubert et Chopin. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook du festival Balade Musicale. Réservation conseillée auprès de l'Office du Tourisme d'Enghien-les-Bains ou sur le site www.francebillet.com.
IDFM Jazz, c'est du jazz, c'est tous les mardis à 20h avec Louis Nicoletto. Retrouvez-moi sur IDFM 98 pour un moment de détente avec les grands noms du jazz.
IDFM Jazz, avec Louis Nicoletto.
Vous écoutez IDFM, il est 10h.